Corps et esprit ne font qu'un ?
Est-ce si surprenant ? Depuis la nuit des temps, l'homme est un être spirituel, le regard perpétuellement tourné vers le ciel, dans un dialogue permanent avec les divinités censées s'y trouver et qui règlent de loin et de haut sa destinée. Cette obsession lui fournira d'ailleurs l'énergie de construire d'incroyables monuments comme les pyramides d'Égypte qui aujourd'hui encore nous laissent pantois et même perplexes. Il est donc naturel de retrouver les préoccupations spirituelles de l'homme dans les défis physiques qu'il se lance. Car le corps et l'esprit sont intimement liés. Même si l'on ne comprend pas très bien le phénomène de la conscience, j'aurai d'ailleurs l'occasion de développer ce point dans un prochain article, on est bien obligé de constater que la matière a donné naissance à un phénomène immatériel, la conscience. Comment la matière a-t-elle obtenu cela ? C'est le grand mystère de l'esprit. Jusqu'à preuve du contraire, notre esprit est une création de la matière. Et comme les chiens ne font pas des chats, il est logique que corps et esprit soient intimement liés. La pensée chrétienne sur ce point a été assez ambiguë. D'un côté, l'Église nous disait que tout ce qui venait du corps était vil et condamnable, parce que sous l'emprise du malin. D'un autre côté, le corps avait quelque chose de divin en lui qui se manifesterait au moment de la résurrection. C'est sans doute pour cette raison que l'Église n'aime pas que l'on joue avec son corps de son vivant. Ainsi, elle a longtemps vu d'un mauvais œil les pratiques sportives. Le sport lui semblait une attention un peu excessive portée au corps. Presque au même moment, en Asie, un moine tibétain d'origine indienne, Bodhidharma, après avoir passé de longues années à méditer, a acquis la conviction de la profonde union du corps et de l'esprit. Il a ensuite mis au point avec les moines du monastère de Shaolin des techniques de combat pour les défendre contre les envahisseurs. Ainsi naissent les arts martiaux. La possession d'un corps parfait et sa maîtrise totale sont considérées comme une voie de développement spirituel. Le corps serait ainsi une porte d'accès vers l'éveil spirituel. Tout l'art de ces pratiques consiste à se rendre maître de l'énergie vitale qui nous habite, le ki chinois. Mais cette énergie est naturellement la même que celle qui anime la Terre, tous les êtres vivants et même l'univers entier. Prendre conscience de cette énergie en nous est une voie merveilleuse pour se relier au monde et donc au ciel. Car si la Terre et le ciel sont dans une opposition apparente, l'une en bas, l'autre en haut, l'une bien solide, l'autre éthérée, il n'empêche que l'un et l'autre sont animés par la même énergie. La sentir en soi, la laisser s'exprimer, la maîtriser si possible, l'orienter à tout le moins, c'est nous faire prendre conscience de notre union totale au monde et nous proposer une voie pour connaître le ciel lui-même en se connaissant soi-même. L'idée est donc d'aller chercher cette énergie là où elle se trouve, dans le corps. La maîtrise du corps par des exercices quotidiens fait peu à peu entrer en contact avec cette énergie. L'éveil qui en découle a des conséquences non seulement spirituelles, mais aussi physiques. D'un coup, le karatéka peut tuer un adversaire, non par le coup lui-même, mais par l'énergie qui le traverse et qui est transmise à l'autre en face, pour son malheur. Car cette énergie de vie, le ki, est aussi le rayon de la mort. On retrouve cette même idée de développement spirituel par la maîtrise du corps dans la pratique du yoga. L'énergie vitale qui nous traverse semble passer par différents relais, des chakras, répartis tout au long du corps, à partir de la base de la colonne vertébrale jusqu'à la tête. L'ouverture, entre guillemets, de ces 7 chakras, selon la tradition, va permettre à l'énergie venant des profondeurs de circuler et de s'élever dans tout l'organisme. Arrivant en Occident dans les années 70-80, les arts martiaux perdent de leur essence spirituelle et évoluent vers une pure technique sportive, notamment dans des sports dérivés comme les boxe-pieds-poings, mais il n'en demeure pas moins une quête de la maîtrise par l'esprit, du corps et surtout des énergies qu'il gouverne. Au fond, tout se passe comme si la matière avait créé l'esprit pour rendre le corps conscient de lui-même, cette conscience étant une voie vers une élévation spirituelle de la matière. C'est sans doute pourquoi il ne peut y avoir d'éveil de la spiritualité sans associer le corps à la démarche de l'esprit. L'ère du Verseau nous incite ainsi à des pratiques nouvelles. Nous entretenons notre corps, nous l'affinons, nous le purifions, nous le désintoxiquons. Nous voulons une alimentation saine, nous achetons pour cela des produits bio, nous fuyons certaines substances, certains deviennent même végétariens. Tous ces comportements ne sont pas, comme on pourrait le croire, des réactions aux excès de l'industrie agroalimentaire. La multiplication des obèses ou des diabétiques n'est pas la seule cause de cette envie d'un corps sain. C'est une évolution profonde de l'humanité. La malbouffe ne fait que nous aider à cette prise de conscience, à ce travail sur soi. C'est une nouvelle alchimie qui se met en place pour transformer en or un corps gras, mou et intoxiqué. Cette alchimie, on la voit bien dans la pratique du bodybuilder qui contrôle au gramme près tout ce qu'il absorbe, qui alterne la prise de masse et la sèche. Ainsi, l'air du Verseau nous incite à reprendre le contrôle de notre corps et de notre esprit. Mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Après des siècles où le corps n'a pas eu grâce à nos yeux, en Occident du moins, le voilà qui revient au devant de la scène. Certains n'y verront sans doute qu'un culte de l'apparence un peu futile, mais en fait se met en place le premier étage d'une fusée qui doit nous élever vers le ciel. L'air du Verseau commence à peine.